Thème, c'était comme les contrôles à l'aéroport, n'est-ce pas? Il fallait tout laisser sur le tapis avant de avant de passer. Voilà. Je ne sais pas si Davy est déjà. Ah, il est déjà là. Donc voilà. Alors pour la méditation, la prédication ce matin, je vous propose de lire le récit de la conversion d'un homme à l'Évangile.
Merci.
Et de voir à travers ce récit comment Dieu a utilisé, les circonstances en fait que Dieu a mis en place pour favoriser cette conversion possible. Ce récit, nous le trouvons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, à partir du verset 26. Et je lis, « Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud. » Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartit assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe a couru et entendu l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé. » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque. L'eunuque répondit, pardon, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Voilà la confession de foi de Philippe. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Alors je trouve, ce n'est pas la première fois que je prêche ici dans cette église sur ce récit, je le trouve vraiment formidable, fascinant, très intéressant. Il est riche d'enseignements. Et sans doute qu'on peut prêcher à plusieurs reprises sur ce même texte et on retirera toujours quelque chose de nouveau. Car il montre, et c'est sur ça que je voudrais attirer l'attention ce matin, comment Dieu conduit les choses, comment Dieu conduit et rend possible les circonstances en vue du salut d'une personne. Chacun de nous qui sommes chrétiens ici dans cette salle, je ne sais pas si c'est le cas de tous, nous pouvons regarder un petit peu notre vie passée et aussi examiner, voir les circonstances, peut-être même les dire, n'est-ce pas? Nous avons sans doute déjà pris conscience de ces circonstances qui entouraient notre conversion à l'Évangile. Pour certains, Dieu a mis sur leur route des amis ou alors des collègues de travail ou de l'école ou alors des voisins chrétiens qui leur ont parlé tout simplement de l'Évangile, qui ont témoigné auprès d'eux. Pour d'autres, c'était sans doute des membres de la famille. C'était mon cas, je suis né dans une famille chrétienne. voilà, il y a d'autres personnes ici dans la même situation. Pour d'autres encore, c'était tout à fait différent. C'était des circonstances extrêmement difficiles qui les ont poussés à rechercher le sens de l'existence. Parfois même des personnes qui avaient peut-être envie d'en finir avec leur jour, n'est-ce pas ? Et qui donc sont allées à la recherche. Mais c'est quoi la vie ? À quoi ça sert ? Pourquoi suis-je sur la terre ? Et leur recherche a abouti donc à la réception de l'Évangile, à la réception de Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Et donc, chacun ici pourrait raconter ses propres expériences. David nous a raconté tout à l'heure quelques-unes des siennes, sa grand-mère, Annie, son épouse, donc, qui était là devant, qui a aussi joué un rôle et qui joue un rôle important, n'est-ce pas ? La guérison de son père du Covid-19, alors que c'était un moment de crainte très fort au sein de la famille. L'église baptiste de Massy, l'église baptiste de Caen, le pasteur Sénat, n'est-ce pas ? Quelques-unes de ces circonstances qui ont joué un rôle essentiel dans le cheminement de David jusqu'à la décision d'aujourd'hui de témoigner par le baptême de sa foi au Christ. Ici, dans ce récit, nous voyons les circonstances donc, qui ont rendu possible la conversion de ce dignitaire éthiopien. D'abord, je dirais, le rôle essentiel joué par le Seigneur lui-même, qui est à la base de tout. C'est le Seigneur qui conduit Philippe d'aller à la rencontre de l'eunuque. Le texte nous parle d'un ange du Seigneur et du Saint-Esprit. Donc, c'est le Seigneur qui pousse Philippe aller dans ce lieu précis sur la route qui conduisait directement sur le continent africain, d'où cet homme était originaire. Route donc qu'il devait emprunter pour retourner, pour rentrer chez lui en Éthiopie. Et c'est le Saint-Esprit qui a poussé Philippe à s'approcher du véhicule dans lequel le dignitaire se trouvait, donc le char, n'est-ce pas, avec lequel il effectuait ce voyage de retour dans son pays. Intéressant, n'est-ce pas, ce que le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit peut effectivement nous pousser à faire telle ou telle chose. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi, mais on le sent profondément. On a cette conviction que le Saint-Esprit nous dit de faire telle ou telle chose. C'est donc une bonne chose de se mettre à l'écoute du Saint-Esprit en tant que chrétien, n'est-ce pas, de se mettre à l'écoute du Saint-Esprit et d'être à l'écoute de ce qu'il veut bien nous dire, n'est-ce pas, et nous laisser conduire par lui. D'ailleurs, les Écritures, un peu partout, nous y encouragent, n'est-ce pas. L'apôtre Paul, par exemple, disait aux chrétiens de Galatie, « Laissez-vous conduire par l'Esprit ». C'est donc le Saint-Esprit qui donne l'impulsion, j'allais dire même qui donne le courage à Philippe de s'approcher de cet homme qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, pour l'évangéliser, pour l'amener au salut, à la connaissance de l'Évangile. Et cela nous fait penser à la promesse de Jésus à ses disciples avant de monter au ciel. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, là où vous êtes, dans la Judée, en Samarie, et jusqu'au bout du monde. En fait, lorsque Jésus a donné l'ordre, donc cet ordre de mission à ses disciples en disant « Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit », il leur a fait une promesse, il a ajouté une promesse à ce commandement, à cet ordre. « Et voici, je serai avec vous tous les jours, chaque jour, jusqu'à la fin du monde ». C'est le Seigneur qui est là et qui accompagne son œuvre. Il serait donc avec eux, avec nous, non pas bien sûr physiquement, puisqu'elle est montée au ciel, mais par son Saint-Esprit qui habite tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur et ceux qui peuvent témoigner donc de ce que l'Évangile a fait dans leur vie. Le Saint-Esprit accompagne et dirige tous les disciples du Seigneur, en tout cas tous ceux qui se mettent à la disposition du Saint-Esprit, qui se laissent diriger par lui. Cela fait penser aussi à ce que Jésus disait à ses disciples. Quand on vous conduira devant les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment ce qu'il faudra dire. Le Saint-Esprit vous enseignera au moment ce qu'il faudra dire. Je pense que c'est la même chose dans le domaine du partage de l'Évangile, du témoignage, de l'évangélisation, comme on dit. Si l'on vit vraiment en communion intime avec le Seigneur, si on vit une vie de communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit mettra dans notre bouche ce qu'il conviendra dire à ceux à qui nous témoignons. Dans un autre passage, Jésus disait à ses disciples qu'après son départ, il leur enverrait le Saint-Esprit avec un objectif précis. Celui de convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. On voit donc dans ce récit que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre dans la vie de cet Éthiopien. Il ne s'était pas rendu compte, mais le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre dans la vie donc de ce dignitaire en utilisant d'abord les relations que l'Éthiopien entretenait avec des Juifs. Les Juifs à l'époque, c'était... Depuis toujours, n'est-ce pas, avaient des relations avec tout le monde. Ils allaient partout, n'est-ce pas? Et donc, il y avait sans doute des Juifs aussi en Éthiopie, des gens qui venaient peut-être pour le commerce, etc., qui séjournaient dans le pays. Et le contact avec eux a fait le déclic chez cet homme. S'intéresser au monothéisme, au Dieu d'Israël, au judaïsme, et aussi d'aller plus loin, donc, dans la connaissance de ce Dieu unique, au point même d'effectuer un long voyage d'Éthiopie jusqu'à Jérusalem. Et le texte dit pour adorer, c'est-à-dire pour participer aux festivités religieuses à Jérusalem auxquelles les Juifs participaient. On voit donc que Dieu était déjà à l'œuvre à ce moment-là, n'est-ce pas, dans la vie de cet homme, bien avant sa rencontre avec Philippe. Voilà comment le Saint-Esprit œuvre, travaille, dans la vie des uns et des autres, même sans que nous nous rendions toujours compte. Une autre chose importante, primordiale même, qui a favorisé la conversion de cet Éthiopien, c'est aussi son intérêt pour les Écritures. Lorsque Philippe s'approche de cet homme, celui-ci est en train de lire l'un des plus beaux chapitres des Écritures. Le chapitre 53 du prophète Ésaïe, mais quel chapitre, n'est-ce pas? Quel chapitre! Et sans doute aussi l'un des plus appropriés pour expliquer l'Évangile. Ce chapitre est celui des textes de l'Ancien Testament qui a le plus marqué le langage des auteurs du Nouveau Testament. Celui dont le Christ s'est souvent servi pour décrire sa mission sur la terre. Au cours de son ministère terrestre, Jésus a démontré que comme il est appelé couramment, ce cantique du serviteur souffrant le concernait lui aussi directement. Il y a dans les évangiles des passages qui montrent que Jésus applique ces paroles du chapitre 53 d'Ésaïe à l'œuvre qu'il va accomplir sur la croix en donnant sa vie pour régler définitivement la question du péché de l'humanité. Or, la lecture de ce texte amène cet homme, cet Éthiopien, à s'interroger, à se poser des questions, notamment celle-ci qui apparaît dans le texte. Sans doute que le récit que nous avons est un résumé de tout ce qui s'est passé. De qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et c'est cette bonne question posé à la suite de cette lecture biblique qui va permettre à Philippe de donner la réponse, la bonne réponse, la réponse appropriée et lui annoncer donc l'évangile de Jésus-Christ, car ce passage parle effectivement de Jésus-Christ qui a souffert comme un agneau sans ouvrir sa bouche. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament et notamment dans la bouche de Jean-Baptiste, Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui que Dieu a envoyé pour accomplir une fois pour toutes le sacrifice ultime et suprême en faveur du salut de l'humanité. Sacrifice dont l'objectif était celui d'effacer donc les péchés des hommes en leur offrant la vie éternelle, en tout cas à ceux qui s'approprient ce sacrifice. Et ce passage que l'Éthiopien est en train de lire expose de manière très claire ces choses. Grâce à ce serviteur souffrant qui a donné donc sa vie, les hommes peuvent se réconcilier avec Dieu. Ils peuvent être délivrés de la tyrannie de Satan. Ils peuvent être déliés du joug du péché. Ils peuvent obtenir le salut. Aucun autre chapitre de l'Ancien Testament ne pouvait mieux répondre à la soif spirituelle de cet homme. Et c'est ce chapitre-là qui va conduire donc cet Éthiopien à se poser cette question et sans doute d'autres sur la foi. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole. Et en partant de ce texte de l'Écriture, ça veut dire qu'il a cité beaucoup d'autres, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je pense que ce que Philippe lui a annoncé a été assez complet pour que cet homme aille jusqu'à se poser une dernière question, qui apparaît d'ailleurs dans le texte. En certains moments, du voyage, puisque Philippe est monté dans le char avec lui, n'est-ce pas ? Il a voyagé un bout de chemin avec lui. Cet homme, voyant de l'eau à l'extérieur, lui dit, « Mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Donc ça veut dire que Philippe est allé jusque-là, n'est-ce pas ? Dans son explication de l'Évangile. Question donc qui s'est terminée par la déclaration de foi de cet Éthiopien et de son baptême dans l'eau. Ils sont descendus tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'Éthiopien. Tout cela montre que cet homme avait un cœur prédisposé, un cœur ouvert aux choses spirituelles. Cet homme avait soif de connaître l'Évangile, il avait soif de connaître ce Dieu unique. Et il est reparti chez lui en ayant accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et comme son Seigneur. Et en ayant été baptisé pour témoigner donc de sa foi au Christ. Dieu dit dans sa parole que celui qui le cherche, le trouve. Celui qui le cherche, le trouve, s'il le cherche de tout son cœur. C'est ce qui est arrivé à ce dignitaire. Il a cherché Dieu de tout son cœur et il a trouvé. Il a trouvé le salut en Jésus-Christ. Voilà encore l'un des moyens que Dieu a utilisé pour conduire cet homme à lui. Donc sa parole. Et l'apôtre Paul affirme que la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. L'évangile que nous prêchons ne vient pas de je ne sais pas d'où. Il vient de la parole de Dieu, de la parole du Christ. D'où la nécessité d'annoncer et de faire connaître la parole de Dieu, les Écritures. Voilà pourquoi les Écritures occupent une place importante dans l'Église. Il faut annoncer, il faut dire l'Évangile. Vivre, c'est une bonne chose, c'est un bon exemple, mais ça ne suffit pas. Il faut dire l'Évangile pour que les gens puissent le comprendre. Il faut l'expliquer pour que les gens puissent le comprendre. Cela veut dire que le fond du message chrétien, le fond de l'Évangile, le contenu de l'Évangile se base sur l'enseignement de l'Écriture, de la parole de Dieu. C'est celle qui incite donc les gens à reconnaître leur situation de séparation d'avec Dieu et de la nécessité de se repentir de leurs péchés et d'accepter le Christ comme Sauveur et Seigneur. Beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils ne sont pas pécheurs, qu'ils n'ont rien à voir avec le péché. Or, la parole de Dieu, quand elle parle de péché, elle dit que tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. c'est pas simplement ceux qui mettent des bombes et qui égorgent. Non, non. Nous sommes tous pécheurs, dit la parole de Dieu. Mais ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, n'est-ce pas? Parce que nous pensons que nous sommes bons, que nous ne sommes pas comme les autres. La parole de Dieu nous dit la vérité sur nous-mêmes, sur notre état et sur le besoin que nous avons d'un sauveur. Enfin, un dernier élément, c'est que Philippe donc, s'est montré disponible pour aller à la rencontre de cet inconnu. Ça veut dire que cet homme qui vivait en communion avec Dieu a laissé Dieu l'utiliser pour le salut, non seulement de cet homme, mais beaucoup d'autres, puisque quand on lit les Actes des Apôtres, on voit qu'il a évangélisé beaucoup de monde. À la base, j'allais dire, il était le grec des Troyas, de la Bège, de l'église de Jérusalem. Son nom apparaît au chapitre 6 des Actes des Apôtres, où il est cité à côté de 6 autres personnes pleines du Saint-Esprit et de sagesse. Donc, des hommes qui ont été choisis pour diriger le service social de l'église de Jérusalem. Or, cet homme, en plus de ce service qui est un ministère essentiel, d'ailleurs nous l'avons vu et nous allons encore le voir bientôt, c'est quelque chose de le social, c'est aussi du spirituel, n'est-ce pas? Or, cet homme, en plus de ce ministère, il se consacrait à l'évangélisation. Il était un évangéliste aussi. Il allait annoncer l'évangile. Et comme c'était un homme effectivement rempli du Saint-Esprit et plein de sagesse, puisque le texte le dit, il n'a pas hésité à aller là où Dieu l'envoyait, afin d'accomplir donc une œuvre, un service d'évangélisation, sans connaître dans le détail ce qu'il attendait, ni le but précis de sa mission. Dieu a simplement mis dans son cœur de se diriger dans un lieu précis, et voilà, et il a obéi. Mais il l'a fait volontiers, il l'a fait promptement, parce qu'il avait la conviction que Dieu agirait à travers lui, comme il avait déjà fait lorsqu'il s'est adressé à des Samaritains, donc en Samarie où il a évangélisé beaucoup de monde. D'ailleurs, grâce à son ministère en Samarie, on n'a pas le temps aujourd'hui de le voir, mais si vous regardez le verset 12 de ce chapitre 8, grâce à son ministère d'évangélisation en Samarie, il a touché beaucoup de monde et beaucoup se sont convertis à l'évangile et ont été baptisés. Le verset 12 dit « Quand ils crurent Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du règne de Dieu, ils se firent baptiser tant les hommes que les femmes. » Donc, c'était un homme qui avait un message puissant, percutant, et les gens se convertissaient à l'évangile. Philippe parlait et agissait par la puissance du Saint-Esprit en lui. Voilà pourquoi il était à l'écoute de Dieu, de ce que Dieu lui disait, et voilà pourquoi il avait, j'allais dire, du succès, mais c'est le succès du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans son ministère d'évangéliste. Quand on vit en communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, donc, parle à nos cœurs et nous dirige si nous le laissons agir dans nos vies. Et dans un monde de personnes, Dieu utilise des personnes, n'est-ce pas? Dieu nous utilise comme Philippe, vous et moi. Sommes-nous aussi disponibles pour témoigner autour de nous, pour laisser Dieu nous conduire, même dans cette affaire du témoignage et de l'évangélisation? Sommes-nous disponibles pour que Dieu nous utilise au milieu des circonstances qu'il met en place pour conduire telle ou telle personne à l'évangile? Voilà comment Dieu agit, par son esprit, par sa parole, et en utilisant ses enfants qui se montrent disponibles à le servir. Voilà les circonstances que Dieu met en place pour que les gens soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Suite à ce travail accompli par le Seigneur au travers de sa parole, de son esprit et de Philippe, ce dignitaire éthiopien, après avoir accepté le Seigneur comme son sauveur et Seigneur, et après avoir été baptisé pour témoigner de sa nouvelle foi au Christ, le texte nous dit qu'il a poursuivi sa route comment, rempli de tristesse? Non, rempli de joie. Rempli de joie. L'une des conséquences du salut, c'est la joie. Ce n'est pas la joie du monde, c'est la joie du salut. La joie d'être en Christ, la joie de savoir qu'on est sauvé avec le Christ. D'ailleurs, les évangiles, n'est-ce pas, nous disent qu'il y a beaucoup de joie au ciel lorsqu'un pécheur se repent. N'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de joie au ciel aujourd'hui aussi. Bon, Dave, il s'est repenti avant, puisque s'il a été baptisé aujourd'hui, il s'est converti avant, n'est-ce pas? Mais beaucoup de joie au ciel. Et celui qui se repent et qui se convertit au Seigneur est aussi rempli de joie, n'est-ce pas? La joie du salut, la joie d'appartenir au Seigneur. Peut-être que le culte de ce matin, moi je ne sais pas, mais peut-être que le culte de ce matin, le témoignage de Dave et son baptême et le récit biblique aujourd'hui font partie peut-être des circonstances que Dieu est en train d'utiliser pour amener quelqu'un dans la salle à prendre de bonnes décisions, la décision d'accepter le Seigneur, de le suivre, coûte que coûte, n'est-ce pas, malgré les difficultés de la vie, les choses difficiles. Parce qu'avec le Seigneur, ça vaut la peine, la vie est sûre. Quoi qu'il arrive, nous sommes dans sa main et nous avons besoin de ce salut. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui vous empêche à vous aussi d'être baptisé, c'est-à-dire de témoigner de votre foi au Christ? Jésus disait, quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, qu'il est à moi, qu'il est à moi. Amen. Je vais demander à David de venir devant. L'Église a l'habitude d'offrir une Bible à ceux qui se font baptiser, non pas en pensant qu'ils n'ont pas de Bible à la maison, je pense qu'ils doivent avoir plusieurs Bibles à la maison. C'est une manière symbolique de dire que la Bible est la nourriture du chrétien. Elle occupe une place essentielle. Et en plus, on lui offre une Bible avec des commentaires. Donc, il n'aura pas d'excuse de dire « Ah oui, mais... » Non, non, il a la Bible avec un commentaire. Il peut se nourrir chaque jour, au moins de ce commentaire du texte biblique. Donc, je vais, au nom de l'Église, lui offrir cette Bible. Je vais demander à Marianne, à Maurice, et à Men de venir devant. Et on va encore prier pour Davy et avec lui. Voilà, David, au nom de l'Église, voilà ce qui nourrit, ce qui peut nourrir ta foi chaque jour. Alors, qui veut commencer par la prière? On va prier.
J'ai une parole pour toi. C'est Paul qui s'adresse à Timothée. Il avait le même âge que toi, tu vois, Timothée. Il dit ceci. Pour toi, reste fidèle à tout ce que tu as appris et expérimenté. Persévère dans les enseignements qui t'ont été confiés, que tu as accueillis avec foi et qui sont devenus des certitudes pour toi. Tu as été convaincu de leur vérité. Non seulement parce que tu connais les maîtres dont tu les tiens, mais parce que depuis ton jeune âge, les saintes écritures te sont familières. Elles te montrent le chemin. Elles peuvent te donner la vraie sagesse. Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi.
Mon frère, je te bénis. La grâce est sur toi. Amen. Reçois de notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur, la bénédiction, qu'elle enrichisse ta vie, que le Saint-Esprit habite en toi, qu'il te donne la vraie sagesse et qu'il te conduise tous les jours et te fortifie. Toi, ta famille et tes enfants, nous demandons cette grâce, nous l'Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Oui, Dieu notre Père, nous voulons vraiment te dire encore merci avec un cœur reconnaissant pour ton amour immense que tu as manifesté dans nos vies, dans la vie de notre frère, Seigneur. Mais Seigneur, nous te le confions encore maintenant, Seigneur, que ta grâce soit sur lui.
Amen.
Que tu lui permettes de poser vraiment, de compter sur ta grâce au jour le jour.
Amen, amen, amen.
Oui, Père, nous te bénissons parce que tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux. Nous voulons vraiment nous confier en toi, Seigneur. Sois la lumière sur ton sentier, Seigneur.
Amen.
Éclaire comme tu éclaires nos vies, les recoins de nos vies, Seigneur, et que tu brilles dans sa vie, Seigneur, que tu brilles dans nos vies, et que nous soyons vraiment et qu'il soit, comme il l'a dit dans son témoignage, des témoins, des disciples fidèles et qui reflètent ton amour. Oui, Seigneur, je te prie vraiment que tu exauces sa prière et qu'elle soit aussi la nôtre, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu grand et gloire à ton nom. Amen.
Amen, amen.
Aujourd'hui, comme nous l'avons lu sur le baptistère, tu as été enseveli dans l'eau du baptême et tu es ressuscité avec Jésus pour la vie éternelle. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ça, pour la décision que tu as prise de t'engager à suivre Jésus tous les jours jusqu'à la fin de tes jours.
Merci.
Parce que Dieu vienne te chercher.
D'accord.